Voilà, c'est notre dernier rendez-vous donc, de ces journées d'études sur l'Internet. Nous avons entendu beaucoup de choses, il y a eu aussi des échanges, il y a eu des temps de lecture en atelier. Alors, avant de commencer à proprement parler ces quelques mots de conclusion, on ne veut pas vous laisser avec des questions rentrées que vous traîneriez pendant des mois et des mois. Et donc, commencez par vous tendre le micro pour toutes les questions que vous pourriez avoir encore, donc sur les sujets qui ont été abordés ces deux journées. Y a-t-il des questions qui restent ? Non. Si.
Si.
Simplement, à la fin de la conférence de ce matin, donc notre conférencier nous a parlé, nous a dit que l'antidote à l'utilisation d'Internet semble, enfin, était donc l'adoration eucharistique. Mais ça, il s'adressait l'Eucharistie et puis l'adoration eucharistique. Et donc, quand il ne s'agit pas de croyants, quelles sont les pistes qu'on peut développer chez les jeunes pour justement essayer de les aider à trouver l'antidote à cette sorte de drogue dans laquelle on peut tomber.
Ben, ça tombe bien parce que c'est justement ce que je comptais dire pour tirer à ma façon, enfin, selon mon point de vue, les conclusions ouvertes de ces journées d'études. Ce que l'on peut faire, c'est de tout mettre en œuvre chacun selon sa vocation, selon ses capacités, selon ses désirs, pour aider notre prochain, tout le monde et n'importe qui, à activer les zones de son esprit que l'Internet habituel laisse dans l'ombre ou même fait taire, comme le père Ouvigois l'a très bien démontré ce matin. C'est donc toutes les zones de l'esprit dont il parlait. Je pense que vous avez tous pris des notes, moi aussi, parce que j'ai beaucoup appris. Quand il dit qu'il faut activer la différence entre la notion de bien et la notion de mal, c'est bien évident que sur Internet, vous ne trouverez jamais ces références-là. Puisque Internet crée un monde parallèle dans lequel il n'y a ni bien ni mal, il y a autre chose. Quand il s'agit de cultiver la communion, la rencontre, l'intimité, c'est-à-dire la rencontre entre les personnes, entre les individus, qui sont en fait des personnes. Alors que la pratique habituelle de l'Internet, c'est la fusion, comme disait le père Ouvigois, c'est-à-dire... des inconnus rencontrant des inconnus et se livrant à des échanges dans l'obscurité d'un tunnel parce que personne ne sait à qui il est en train de parler. Restituer, aider les gens à redécouvrir la notion de la durée du temps, le temps humain, c'est-à-dire le fait qu'il faut avoir de la gratitude envers ceux qui ont compris avant nous. Et qui nous ont légué leur expérience. Il faut la connaître. Ils nous la transmettent. Il faut la connaître. Pour ça, il faut apprendre qu'elle existe. Et on peut trouver d'ailleurs ça sur Internet, à condition de le chercher. Il faut donc apprendre, aider notre prochain à prendre conscience du fait que si on cherche bien dans cette lumière-là, eh bien on trouve sur Internet les leçons de ceux qui nous ont précédés, l'expérience de ceux qui nous ont précédés. C'est pas la machine qui a réponse à tout. Ce sont les générations antérieures qui ont travaillé, qui ont étudié, qui ont médité, qui ont trouvé des choses et qui nous les transmettent. Et ça, on les trouve sur Internet. Il faut aider donc notre prochain à comprendre que ce qu'il trouve sur Internet de plus intéressant, c'est ce que nos prédécesseurs ont trouvé avant nous. Donc, avec ça, D'abord, on redécouvre la gratitude envers ceux qui nous ont précédés. Le grand absent de la civilisation actuelle, ou de ce qui nous sert de civilisation, c'est la gratitude. Il n'y a pas de gratitude. C'est d'ailleurs pour ça que les gens n'ont plus de notion de ce que c'est qu'un pays, une nation, puisque les générations antérieures ont basculé, elles sont zappées. Elles ont basculé dans le grand inconnu. On ne se rend pas compte qu'on est assis sur leurs épaules, en réalité. Mais il faut en faire reprendre conscience aux gens. Ça ne veut pas dire une contemplation nostalgique du passé. Ça veut dire utiliser les forces du passé comme dynamique pour nous projeter en avant, pour conquérir l'avenir, pour humaniser l'avenir. Tout ça, c'est des choses que l'on peut trouver sur Internet, mais qu'Internet ne nous annonce pas. Au contraire, Internet fait semblant que tout commence ce matin, qu'il n'y a pas de passé, qu'il n'y a pas d'héritage, qu'à la limite, il n'y a pas d'avenir non plus, qu'il n'y a que le présent, qu'il n'y a que l'instant présent. Mais même l'instant présent, il a un mauvais aspect, il a un aspect excellent et essentiel. Et il faut faire comprendre aux gens que être dans l'instant présent, ça ne veut pas dire se livrer à toutes les modes, se laisser influencer par n'importe quoi et consommer du matériel. Que l'instant présent, c'est aussi, alors ça, c'est une question de foi bien sûr, mais c'est à nous de la faire partager, c'est le moment que Dieu nous donne à vivre et que Dieu nous donne pour l'habiter, pour habiter l'instant présent, lui donner du sens. Parce que finalement, la vie chrétienne, c'est toujours dans l'instant présent. Donc l'instant présent, il peut être ou très mauvais ou très bon. Très mauvais, si c'est l'instant présent du consommateur aliéné à la publicité qui croit qu'il faut courir acheter un truc parce que sinon, il ne peut plus vivre. Mais il y a aussi l'instant présent du chrétien qu'il faut rendre transparent et qu'il faut donner sa valeur d'éternité. Donc tout ça, c'est des choses que les chrétiens savent, mais que notre prochain ne sait pas parce qu'on ne lui a jamais dit. Donc c'est à nous de l'aider à le découvrir. C'est les vraies richesses humaines. Quand Père Rouveillot disait ce matin qu'il faut se réancrer dans la créativité, c'est-à-dire que non pas la créativité, c'est la même chose que l'instant présent. Il y a bonne et mauvaise créativité. La créativité, c'est nul si ça consiste à dire j'invente n'importe quoi dans la minute actuelle, j'aurais oublié dans la minute suivante, je me livre à toutes mes impulsions. Ça, c'est zéro. Mais si la créativité, c'est le désir d'espérance, c'est-à-dire que puisque un bonheur infini nous est promis, dans ces conditions, on ne peut pas vivre n'importe comment, et on ne peut pas non plus laisser le temps qui nous est donné filer entre nos doigts sans rien en faire. Il faut en faire quelque chose. Ça, c'est la créativité chrétienne. C'est une créativité qui a du sens, et non seulement du sens présent, mais du sens d'espérance. Donc, tout ça, ça fait partie des choses qui sont en réalité des valeurs qui sont humaines à la base. Il n'est pas nécessaire d'être croyant pour sentir le besoin d'espérance, ni pour sentir la gratitude, ni pour sentir qu'il y a une différence entre le bien et le mal. C'est des choses qui sont liées à la nature humaine, dont il ne faut pas désespérer. Parce que le système, évidemment, technico-commercial que nous subissons, qui est écrasant, il est écrasant, mais il ne peut pas tout écraser. Il y a un mystère, il y a une part de sacré, de mystère au centre du cœur de l'être humain que le système ne peut pas atteindre, sur lequel il n'aura jamais prise. Et il faut aider notre prochain à redécouvrir, à découvrir ce mystère en lui, à découvrir que lui, il est beaucoup plus que lui-même, que notre identité dépasse infiniment notre identité en réalité. À partir du moment où cette porte-là s'ouvre, tout devient possible, y compris l'évangélisation. Mais ça commence par la découverte des valeurs de la simple nature humaine. Il n'y a pas de différence. Ici, il y a une énorme différence, mais il n'y a pas de coupure entre la nature et le surnaturel. Voilà tout ce que l'on peut faire. Alors ça paraît évidemment bien théorique et bien baratin, ce que je viens de raconter. Mais il faut aller vite, donc je ne peux pas faire autrement. On ne peut pas te donner tous les exemples que l'on pourrait donner. Ce que je veux dire, c'est on peut, sur Internet, aider notre prochain, soit qu'on prenne sur soi d'ouvrir soi-même un blog, ce que n'importe qui peut faire à tout moment, et ça coûte pas cher. Mais si on ne veut pas se mettre ça sur les bras, parce que c'est évidemment un peu astreignant, on peut, et même on doit, si on est chrétien croyant, être présent sur les lignes de commentaires, sur les chats, sur tout ça. Il faut y aller. Il faut que les chrétiens, à l'écoute de leur Église, se fassent entendre sur toutes ces lignes de commentaires, sur les sites chrétiens, mais sur tous les autres sites aussi. Pourquoi ? Parce que sinon, on risque de laisser, alors là, je fais une parenthèse rapide, le terrain libre à des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui, quelquefois, n'expriment pas véritablement le point de vue chrétien, qui expriment leur point de vue à eux. Donc il est indispensable que ceux qui sont à l'écoute de leur Église relayent la parole de leur Église, relayent la parole de leur foi en participant au débat. Mais ça, ça peut ne vous prendre que 10 minutes par jour, si vous voulez. C'est à la portée de n'importe qui. Je serais assez partisan de donner la consigne à tout un chacun de prendre un quart d'heure par jour pour aller sur un site sur lequel il va trouver un débat. Il y a que l'embarras du choix. Vous en avez des milliers, y compris les sites des magazines de grande information. C'est important. Le site du Point, le site de l'Express, le site du Monde, etc., sur lequel s'expriment des points de vue très souvent épouvantables et auxquels, quelquefois, des gens répondent de manière non moins épouvantable au nom du catholicisme. Mais leur parole n'est pas chrétienne. Et ils ne font que renforcer les anticathos dans leur hostilité. Puisque vous voyez bien comment ils sont, regardez comme ils sont méchants, agressifs, etc. Donc il est indispensable d'y aller pour faire entendre une parole de foi équilibrée, paisible, ferme et claire. Et ça peut vous prendre un quart d'heure par jour, pas plus. Tout le monde peut donner un quart d'heure par jour. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est à la fois la réponse à votre question et ce que je voulais vous dire à tous. Donc voilà, vous en avez deux pour le prix d'un.
Pendant le repas où on a réfléchi un petit peu aux conclusions, on s'était dit, on va prendre la question, que faire ? Voilà, les journées d'études s'achèvent, maintenant on repart, que faire ? Donc la question de Monique est de fait une bonne introduction à la conclusion. Moi, en écoutant ce matin, vous voyez, il m'est venu, j'étais très sensible au fait que hier, on s'est posé un peu la question éducative, pour beaucoup d'entre nous, on a ce souci en tête, comment faire par exemple pour éduquer, pour accompagner les jeunes dans l'utilisation d'Internet. Bon, et c'est vrai que moi, si vous voulez, cette question, comme beaucoup d'entre vous, elle est d'autant plus vrillée en moi que j'ai les chiffres que vous avez sans doute lus. 21,8% des primaires se connectent seuls, des primaires, hein. Et c'est de l'ordre de 42-43 des lycéens. Des choses comme ça, ça donne un peu des sueurs froides. Hein. Quand on lit que 60% des jeunes se connectent à l'abri du regard des autres. J'espère que c'est pour des navigations sûres et fécondes et riches, mais enfin, bon. Donc, vous voyez ce souci qui nous taraude, un peu le souci éducatif. Alors, hier, on s'est posé la question, et je crois que les maîtres mots qui sont apparus, c'était accompagner, guider. C'est vrai qu'on a de la joie à entendre M. Méry dire « J'ai passé 2 heures avec mon fils de première pour aller avec lui sur des sites, lui montrer les bons sites, comment on peut les utiliser, comment on peut discerner les bons sites des mauvais, etc. etc. » Voilà, on se dit, ben, voilà un père de famille qui remplit sa mission d'éducateur dans l'accompagnement, vous voyez, dans la guidance. Bon. Et ce matin, alors c'était très intéressant, enfin en tout cas, moi j'ai eu d'autres lumières, dans la mesure où c'est le point de vue plus global encore. Mais tant mieux, il y a une unité de l'éducation, de l'acte éducatif. Et finalement, tout l'acte éducatif, même sans avoir en tête immédiatement Internet, dès lors qu'il est acte éducatif, forme les jeunes aussi à ça. Alors quand on entendait ce matin discerner, par exemple, le séduisant du beau, de fait, distinguer le vraisemblable du vrai, distinguer le bien du plaisir. Bon, ça, c'est des lignes de pistes un peu pour tout l'agir éducatif, que ce soit avec des collégiens, des lycéens, etc. Alors, c'est vrai que par rapport à la rencontre de l'Eucharistie, on serait tenté de dire déjà des rencontres avec des modalités du réel, c'est déjà bon à prendre. La mise en relation avec la nature, le regard. Pas seulement la nature médiatisée par l'écran, mais la nature, la sortie en forêt, enfin je ne sais pas, tout ce que vous voulez, où le jeune a la nature en face de lui, enfin, et la nature vraie, voilà. La rencontre aussi, pour vous montrer un peu l'unité de l'acte éducatif, mais la rencontre du pauvre, du vulnérable, de celui qui n'a rien de séduisant, de celui qui n'a rien de fascinant parce qu'il a une personnalité, par exemple, blessée, mais qui nous présente le mystère de l'être d'une personne humaine qui est là tout entier. Pour moi, si vous voulez, ça fait partie de l'éducation en général, enfin dans toute son ampleur, et en même temps, c'est des chemins qui effectivement aident indirectement peut-être à se garder de certains des dangers de l'Internet. En tout cas, c'est pas coupé, vous voyez. Il y a des répercussions réelles. Je pense que quelqu'un qui travaille à l'Arche est peut-être plus, j'allais dire, plus gardé par rapport à des fascinations que lui présente Internet que quelqu'un qui n'a pas la chance d'avoir de vivre cette riche expérience. Donc voilà un petit peu pour, si vous voulez, quelques réflexions sur l'éducation. Alors que faire maintenant par rapport à la mission, le défi missionnaire? Il y a quelque chose de, j'allais dire, de très beau, il y a une opportunité extraordinaire. C'est au moment où nos sociétés ferment la porte à Dieu, alors société archi-sécularisée ou montée d'un certain laïcisme, etc., où on essaye par tous les moyens de mettre Dieu à la porte, que s'ouvrent tout d'un coup dans la maison des tas de fenêtres, autant d'écrans, autant de fenêtres susceptibles, évidemment, pour Dieu d'entrer et de prendre sa revanche, j'allais dire, ou en tout cas de trouver un autre espace pour rejoindre les personnes. Donc on a eu un très beau témoignage sur les blogs missionnaires. On pourrait, alors il reste la question évidemment des sites catholiques. Je crois que les quelques essais dont on vous a fait dont on vous a donné des échos, recherchés sur Google, Jésus, la foi, etc., bon, ça nous montre le chemin à faire. Je disais un peu sous forme de boutade, on trouvera facilement sur un site des activités de la paroisse du Christ Sauveur, mais on ne trouvera pas un site sur le Christ Sauveur. Donc les activités des cathos, nos activités, la tribu parle à la tribu et raconte ce qu'elle a fait, ça, il ne manque pas de site pour le dire. Y compris le site du Studium qui entre dans cette catégorie, donc je me fustige en même temps que je vous dis ça. Et en même temps, je constate de fait l'absence de sites qui parlent simplement de Jésus, qui donnent simplement le témoignage de ceux qui l'ont rencontré et qui, plein de joie et de la richesse de cette rencontre, ont envie de le partager avec des mots simples. Donc là, il y a effectivement un vrai défi. Mais souvenons-nous aussi que quand Jean-Paul II, quand Benoît XVI nous parle du défi missionnaire, je vous relis un petit peu ce que disait Jean-Paul II en 2005, l'Église n'est pas appelée seulement à utiliser les médias pour diffuser l'Évangile. Et ça, c'est une réponse à donner de fait, et qui vient spontanément quand on utilise le mot missionnaire. Comment utiliser ces nouveaux messages pour annoncer? Mais il reste aussi à intégrer le message salvifique dans la nouvelle culture. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de plus vaste. Il y a aussi ce style de vie chrétien dont on a parlé quand même pendant hier, en tout cas, ce style de vie chrétien. Alors, qui de fait apparaît quand, je ne sais pas, vous avez un débat sur la situation israélo-palestinienne, par exemple, il peut y avoir une parole chrétienne qui donne quelque chose. Donc vous voyez, sur des sujets qui ne sont pas nécessairement des sujets liés à la foi, mais ça vous le savez bien. Alors, il y a deux figures aussi, moi, qui m'ont... deux figures évangéliques auxquelles j'ai été assez attentif pendant ce week-end, c'est la figure de Nicodème. La figure des Nicodèmes, de ces Nicodèmes qui, de nuit, derrière leur pseudo, tapent à la porte, sinon du Christ, de ces témoins, de ceux qui portent son nom. Ces multiples Nicodèmes, avec leur peur, avec leur réticence, avec leurs a priori, avec ce qu'ils sont. En même temps, savoir les reconnaître et les accueillir comme des Nicodèmes. Et puis, la deuxième figure évangélique que j'ai, c'est évidemment les pèlerins d'Emmaüs. Là aussi, on a rencontré ça dans le message de Benoît XVI. Et ce mode du dialogue, très très important. Enfin, on n'est pas... Bon, ça, là aussi, Patrice de Plainquette nous a donné le témoignage de cela. On n'est pas en situation d'asséner tout de suite. Voilà, j'ai la vérité, tu ne l'as pas, je te la donne, boum. Mais ce dialogue où très souvent, eh bien, on cherche ensemble la vérité, alors où on est celui qui peut la désigner, en sachant que la vérité est devant nous et que la vérité avec un V majuscule, c'est le Christ.
Et qu'on ne la possède pas, mais que c'est elle qui nous possède.
Ben voilà. Mais ça, voilà, ce que je mets un peu derrière le défi missionnaire. Je vous partage ça quand même, c'est de Jean-Paul II. N'ayez pas peur, ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle quelque chose, mais attendez, la suite, c'est le même texte. Hein. N'ayez pas peur des nouvelles technologies. Il dit ça le 21 février 2005. N'ayez pas peur des nouvelles technologies, elles font partie des merveilles que Dieu a mis à notre disposition pour découvrir, utiliser, faire connaître la vérité, et aussi la vérité sur notre dignité et sur notre destin de fils de Dieu. Alors, il reste une dernière chose, c'est de fait, et je suis vraiment très reconnaissant, Samuel Rovillois, pour ce qu'il nous a dit ce matin, une bonne leçon de lucidité sur aussi les dangers. Et je dirais les complicités que ces dangers ont déjà en moi. C'est vrai que Internet peut être séduisant, fascinant, etc., mais parce qu'ils trouvent en moi des complicités qui sont toutes prêtes à se laisser fasciner, séduire, etc., et entraîner là où tel site veut me conduire, enfin, ou tel clip, ou etc., etc. On n'est pas indemne, si vous voulez. Le mal, il n'est pas seulement sur l'écran. Et donc, de fait, c'est plus que la prudence, c'est le besoin de se garder aussi. C'est pour ça que les mots qui ont été utilisés hier de désert, d'abstinence, d'ascèse, ils font toujours partie du vocabulaire chrétien. Hein. Et peut-être encore plus en 2011. Alors l'abstinence, elle va prendre d'autres formes. Bon, M. Méry nous a parlé de là, comme un acte éducatif. Aider les jeunes à faire abstinence de téléphone portable, bon, ils en sont capables. Et ça les aide. Ça les aide à grandir. Mais nous aussi, on peut, alors là, chacun pour soi, s'interroger sur les abstinences dont j'ai besoin pour garder cette part de silence intérieur, cette part indemne du flot d'images qu'Internet, évidemment, réveille, suscite, va faire naître en moi. C'est vrai que là, il y a un combat spirituel, hein, précisément parce qu'il y a en nous des complicités. Ça, et puis ce que disait aussi Samuel Rovillois, faire ça en cordée. Donc, toute le besoin qu'on éprouve de l'ouverture à qui peut nous aider, et puis au frère, à la sœur, enfin celui qui aussi qui peut sur notre route avoir mission pour nous aider, nous conduire, et puis donc l'ouverture, et puis l'aide mutuelle. Si je me souviens bien, c'était le cardinal Schönborn qui c'était la retraite qu'il a prêché à Ars. Bon, vous l'avez lu ou entendu, beaucoup d'entre vous, le conseil qu'il donnait tout simplement à des prêtres en leur disant, écoutez, vous pouvez, alors il faisait référence à un site américain qui groupe les prêtres deux par deux et chacun peut comme ça voir tout l'historique l'historique de l'ordinateur, de son binôme. Et ça, mutuellement, comme un service qu'on se rend. Ce qui fait que quand la tentation vous prend de naviguer, de surfer dans des zones qui sont plus que orangées et même orangées rouges, c'est une aide, voilà, pour de se dire, bon, j'ai mon confrère, mon binôme qui va regarder mon historique. Alors quand même, bon, vous me direz, c'est une rambarde. Ce serait mieux si on n'utilisait pas la rambarde, mais enfin quand même, elle est là pour m'éviter de tomber. Tout ça, c'est des actes d'humilité aussi, de celui qui se connaît et qui prend les moyens avant la chute. Vous voyez, je crois que c'est là où vraiment il y a à la fois l'humilité, la lucidité, se connaître, savoir qu'on n'est pas meilleur que les autres et que et qu'en face de soi, il y a un outil extraordinaire, fascinant aussi, séduisant, qui est pour le meilleur et pour le pire. Voilà, il faut quand même pas terminer par ce mot le pire, parce que sinon, hein, pour comme fin des journées d'études. Alors je passe la parole à mon voisin.
Bah, le voisin n'a pas grand-chose à ajouter. Il a dit tout ce qu'il avait à dire tout à l'heure. C'est vrai qu'il ne faut pas. Il faut tenir les deux bouts de la ficelle. D'un côté, il y a toute la critique que l'on peut porter contre l'Internet. De l'autre côté, il y a le fait que l'Internet est le terrain qui nous est donné à évangéliser et qu'il faut s'avancer. Il faut mettre le cap sur la haute mer. Duc in altum. Ça, il y a aucun problème. Si, il y a tous les problèmes qui viennent avec, c'est que pour naviguer, il faut savoir naviguer. Et il faut savoir calculer le cap. Il faut savoir prendre des ris quand le vent se lève. Là, je parle pas de la navigation à moteur. C'est toute un savoir-faire. Le savoir-faire, il s'acquiert en travaillant. Ce que vous êtes en train de faire ici même, ce qu'on a essayé de faire pendant deux jours, et ce qui devrait se passer, ce qui doit se passer dans toute la France, dans toute l'Europe, chez tous les catholiques conscients et organisés qui ont envie de faire quelque chose pour Jésus et pour leur Église. C'est ce qui d'ailleurs est la même chose. Il faut y aller sans illusion. Je veux dire qu'il ne faut pas imaginer que on va être accueilli à bras ouverts. On va simplement être dans la mêlée avec tous les autres. Il faut savoir que dans la mêlée, il y a des forces à l'œuvre qui sont des forces commerciales qui peuvent être dangereuses en tant que telles, qui sont des forces d'abrutissement collectif qui sont liées au commercial, qui sont des formes idéologiques, sournoises, quelquefois, du mal caché sous une apparence de bien. Il faut faire très attention à ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire tout seul. Il faut avoir un ou deux compagnons de travail, et puis il faut aussi, on peut en parler à un prêtre un peu au courant, au fur et à mesure. Tout ça est indispensable, il faut une direction spirituelle. On a tous besoin d'une direction spirituelle. Tout ça pour garder le cap, bien entendu. Voilà, il faut y aller. Comme disait Stendhal, agir, mais ne pas être dupe, mais agir quand même. Je pense que Stendhal, qui était très loin d'être un père de l'Église, nous donne un conseil que tout chrétien peut adapter à cette mission-là, qui est à la fois extraordinairement exaltante et terriblement scabreuse, avec beaucoup de sable mouvant.
Merci.